Voici un enseignement donné dans le cadre de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Marc 12, versets 13 à 17. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelqu'un des pharisiens et des hérodiens, afin de le prendre au piège de ses propres paroles. Ils vinrent lui dire, « Maître, nous savons que tu es vrai, et que tu ne redoutes personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes, et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer ?» Jésus, qui connaissait leur hypocrisie, leur répondit, « Pourquoi me mettez-vous à l'épreuve? Apportez-moi un denier, afin que je le voie. » Ils en apportèrent un, et Jésus leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription ?»« De César, lui répondirent-ils. » Alors il leur dit, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils étaient dans l'étonnement à son sujet. La seconde lecture, ce sera dans le psaume 55, les versets 20 à 22. Dieu entendra et les humiliera, lui qui depuis toujours siège sur son trône, car il n'y a point en eux de changement. Ils ne craignent pas Dieu. Ils portent les mains sur ceux qui étaient en paix avec lui. Ils profanent son alliance. Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées dégainées. Et la troisième lecture, ce sera dans Romains 13, chapitre 13, versets 5 à 7. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour ça que vous payez les impôts, car ceux qui gouvernent sont au service de Dieu pour cette fonction précise. Rendez à chacun ce qui lui est dû, la taxe à qui vous devez la taxe, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Jusqu'ici, la lecture dans la parole de Dieu.
À qui nos pensées sont-elles soumises ce matin? À qui nos pensées sont-elles soumises ce matin? Eh bien, je prie que tous ensemble, nous ayons nos pensées, notre mémoire, notre intelligence totalement soumises au Saint-Esprit, qui seul peut donner une compréhension juste de la vie. Donc, comme chaque dernier dimanche du mois, nous ouvrons la Bible dans un évangile. Actuellement, c'est l'évangile selon Marc, que j'aime appeler le journal de Pierre écrit par Marc, puisque Marc, inspiré par le Saint-Esprit, a sûrement reçu une part importante du témoignage oculaire de Pierre, qui d'ailleurs nommait Marc comme étant son fils, dans 1 Pierre 5, 13. Nous sommes entrés dans la dernière semaine de Jésus avant qu'il soit mis à mort. Donc, la dernière semaine, il y a le dimanche. Que s'est-il passé le dimanche, vous vous souvenez? C'est l'entrée à Jérusalem de Jésus, le jour des rameaux. C'est donc l'entrée triomphale à Jérusalem où une foule a acclamé le roi et les responsables juifs n'ont pas apprécié. Ils ont même demandé de faire taire les enfants. Lundi, le jour suivant, Jésus a purifié le temple et guéri des malades pour manifester son autorité. Les juifs n'ont pas apprécié. Mardi matin, après avoir vu le figuier sécher, Jésus et ses disciples vont au temple, et là, les responsables juifs, qui n'avaient pas beaucoup apprécié ce qui s'était passé précédemment, lui demandent par quelle autorité il fait toutes ces choses. Alors Jésus, qui connaît leur hypocrisie et leur haine, leur demande de répondre à une question qui était en fait de leur responsabilité, avant de dire de quelle autorité il agissait. Et là, les responsables, ils n'ont pas voulu répondre. Ils n'ont pas pris leur responsabilité. Alors Jésus a dit, « Je ne vous répondrai pas non plus. » Et les responsables juifs n'ont pas beaucoup apprécié. Et ce même jour, Jésus raconte la parabole des vignerons, qui permet de comprendre qu'il vient de Dieu, et que les Juifs tuent ou cherchent à tuer ceux qui sont envoyés de Dieu. En fait, Jésus tend une perche permettant aux chefs de l'époque d'ouvrir les yeux et de se rendre compte, en fait, de l'horreur de leur attitude et de leurs actions. Mais ayant compris que Jésus parlait d'eux, ils veulent le faire mourir. Comme dans la parabole, alors qu'ils ont pu comprendre le jugement qui, en fait, reposait sur ceux qui vivaient ainsi dans la parabole. Les Juifs n'ont pas du tout apprécié ce que Jésus a dit et ils cherchent tous les moyens pour discréditer Jésus. Et c'est là que nous en sommes dans notre texte aujourd'hui. Nous en sommes à mardi, cette journée qui sera bien remplie d'ailleurs. Donc elle a déjà bien commencé, hein, avec plusieurs éléments donc dont on a à parler maintenant. Hein, les disciples ont vu le figuier sécher, il y a déjà eu une discussion avec les chefs religieux, il y a une parabole des vignerons. Et là, eh bien, nous aurons maintenant un temps où Jésus sera testé. Les chefs juifs veulent vraiment le piéger, parce qu'ils aimeraient l'éliminer. La journée sera très longue. Après, Jésus ira encore au Mont des Oliviers, parlera de l'avenir, puis il retournera à Béthanie, où il recevra une onction. Et la journée se terminera par la visite de Judas chez les chefs religieux qui étaient en train de comploter pour leur dire qu'il était prêt à trahir Jésus. Tout ça, ça se déroule la même journée. Mais nous allons, comme j'ai dit, nous concentrer sur un petit instant de cette journée de mardi. C'est la première question posée à Jésus pour le piéger. Bon, il y a déjà eu l'autorité qui était demandée, qui était déjà un élément où il y avait un certain piège, mais ici, on veut vraiment le piéger, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et nous verrons donc qu'il y a trois questions qui seront posées, nous les verrons séparément. Donc aujourd'hui, nous verrons que la première, parce qu'en fait, chacune de ces questions va nous permettre de voir un enseignement fondamental de Jésus sur différents sujets. Aujourd'hui, ce sera la relation à l'autorité. Et la réponse de Jésus, je le crois, pose des fondements de base pour toute attitude face à l'autorité au-dessus de nous. C'est ce qu'on va voir ce matin. Et le mois prochain, nous parlerons d'un autre enseignement fondamental qui portera sur la compréhension des Écritures, la puissance de Dieu et la vie. Ça, c'est pour la prochaine question que nous verrons. Et dans deux mois, nous parlerons du moteur de nos vies. Quel est le moteur de nos vies? Eh bien, venez ici dans deux mois. Donc, trois questions posées à Jésus pour piéger Jésus, qui deviennent en fait des moments forts d'enseignement de notre Seigneur. En fait, Jésus est la sagesse incarnée. C'est lui seul qui peut transformer une situation difficile en enseignement fondamental. Donc, je vais vous donner le menu de ce matin que nous allons développer en répondant à deux questions. Donc, la première, c'est comment réagir face à un piège? Ça, c'est la première question qu'on va répondre en suivant Jésus. Et deuxième question, c'est comment gérer notre soumission à l'autorité? Voilà les deux choses qu'on va développer ce matin. Donc, comment réagir face à un piège? Dans ce point, nous chercherons à comprendre comment réagir à trois éléments particuliers. C'est comment réagir face au contexte du piège, comment réagir face à la manière dont le piège est tendu, et comment réagir enfin au piège lui-même. Donc, on va relire les versets 13 et 14 de Marc 12. Je vous invite à avoir vos Bibles ouvertes dans Marc 12, puisque c'est là que nous trouvons ce matin. Et je relis les versets 13 et 14. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de le prendre au piège de ses propres paroles. Ils vinrent lui dire, « Maître, nous savons que tu es vrai, que tu ne redoutes personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer ?» Voilà le contexte dans lequel on est. Et j'aimerais réfléchir comment réagir face au contexte de ce piège. Alors le contexte général est posé dans l'introduction où nous avons pu constater, donc je vous ai dit tout à l'heure, nous avons pu constater qu'une foule a acclamé Jésus il y a deux jours. Il y a deux jours, c'était l'entrée à Jérusalem. Et que depuis hier, lundi, Jésus-Christ agit dans le temple d'une manière qui ne plaît pas aux chefs juifs. Et afin de comprendre le contexte, il est aussi utile que nous sachions que le peuple juif sous l'autorité romaine avait une législation propre et un gouvernement politique. Et ce gouvernement politique de l'époque était nommé le Sanhédrin. le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est l'organe de décision de l'époque. Comme en Suisse, nous avons le Conseil national et Conseil des États réunis. Je les mets ensemble. Conseil national, Conseil des États réunis. On pourrait dire ça, c'est le Sanhédrin. Et si nous faisons une analogie, bien que très imparfaite, on pourrait dire que le Conseil fédéral, c'est le pouvoir romain. Par contre, du temps des Romains, ben, ils n'avaient pas besoin du Sanhédrin pour prendre des décisions. Okay. Le Sanhédrin avait un pouvoir sous l'autorité de Rome et s'occupait de nombreuses affaires. Et selon des sources juives, il était composé de 71 membres, donc 70 membres plus le souverain sacrificateur. Et le Sanhédrin était la cour suprême qui s'occupait du gouvernement et de la justice. Le Sanhédrin était la cour suprême, donc en dessous des Romains, mais suprême pour les Juifs, qui s'occupait du gouvernement et de la justice. Elle avait d'ailleurs ses propres gardes. Et le Sanhédrin était composé de personnes de différents partis, comme le Conseil national et des États en Suisse, avec des partis de gauche et des partis de droite. Donc c'est pour vous que je fais de ce sens-là, de gauche et de droite. Le groupe de travail envoyé vers Jésus est formé de deux partis opposés. Les pharisiens étaient les religieux légalistes de l'époque. On dirait un parti de droite qui veut garder la souveraineté du pays. Et les hérodiens, qui étaient ceux qui étaient favorables aux Romains, donc les hérodiens étaient ceux qui étaient favorables aux Romains, on dirait la gauche actuelle. Cela signifie donc que lorsque la question de payer l'impôt sera posée, si Jésus répond qu'il n'est pas permis de payer l'impôt, comme les pharisiens le souhaitaient, c'est ce qu'ils souhaitaient que Jésus dise, les hérodiens allaient réagir. Et ils allaient tout de suite informer les Romains, qui allaient donc se saisir de cet homme qui fait une révolte et l'éliminer. Et le cas Jésus, pour les pharisiens, serait réglé. Si Jésus disait qu'il fallait payer l'impôt, par contre, prenez l'autre réponse, eh bien c'est la foule qui avait de la haine pour l'oppresseur romain, qui détestait cet impôt, qui allait être soulevée contre Jésus, emmenée par les pharisiens pour lyncher Jésus. Voilà, donc le piège est clairement posé, le contexte est clairement posé. C'est donc un contexte difficile où les ennemis de Jésus pensent que Jésus ne peut que perdre. Mais Jésus n'entre pas dans leur jeu. Jésus ne veut pas faire plaisir à un parti politique. Jésus ne cherche pas à faire plaisir à un parti politique. En fait, il recentre son propos et amène tout le monde à tourner les regards vers l'autorité suprême, Dieu. C'est ce que Jésus fait. Jésus ne veut faire plaisir à aucun parti politique. Il recentre son propos et amène tout le monde à tourner le regard vers l'autorité suprême, Dieu. Quel exemple ! Jésus est un exemple extraordinaire, même dans la vie politique. Nous ne sommes pas appelés à trouver un parti préféré. Mais face à une question parfois difficile, nous les chrétiens devons et voulons tourner ensemble nos regards vers l'autorité suprême et nous demander que pense Dieu. C'est ça notre question par rapport aux questions. Que pense Dieu? Et c'est l'exemple que Jésus nous donne. Notre rapport à Dieu sera la source ensuite de notre attitude et de notre rapport à tout le reste. Voilà pour ce qui est du contexte. Si le contexte nous a permis de voir ces deux groupes de personnes qui devaient prendre Jésus en tenaille, la manière d'approcher Jésus est également à considérer pour savoir comment réagir face à un piège. Et ça, c'est notre deuxième partie de ce premier point. Face à la manière de tendre un piège, je vous lis le verset 14. Ça, c'est la manière. Ils vinrent et lui dire, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne redoutes personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. » Les paroles des pharisiens et des hérodiens qu'ils utilisent sont élogieuses et vraies en plus. Quel témoignage de Jésus-Christ, qui est vrai, qui ne redoute personne, qui ne regarde pas l'apparence, qui enseigne selon la voie de Dieu, selon la vérité. Mais en fait, ils n'en croient pas un mot. Il le flatte, en fait. Il le pousse à faire preuve de courage. Et avant même de poser la question, ils veulent qu'ils lisent l'histoire sans regarder l'apparence et se souvenir de Dieu qui a fait une nation sainte. Et ils veulent que Jésus réponde non à leur question. C'est clair. Et en fait, cette flatterie va le pousser à quelque part entrer dans un nationalisme. Il dit, mais non, on ne paye pas l'impôt à César. C'est ce qu'ils aimeraient. Pour que les Romains se débarrassent de Jésus. Vous savez, si je peux vous dire, mais pourquoi tu peux dire ça? Franchement. Pourquoi tu peux dire qu'ils voulaient ça? Mais moi, je peux vous le dire pourquoi. Parce qu'en fait, c'est ce qu'ils ont dit lors du procès de Jésus. En fait, dans Luc 23, verset 2, les pharisiens disent ce qu'ils auraient voulu entendre dire de Jésus ici. Ils disent ceci, ils se mirent à l'accuser en disant, donc ça c'est 3 jours plus tard. Nous avons trouvé celui-ci qui incitait notre nation à la révolte, empêchant de payer l'impôt à César. Et se disant lui-même, Christ roi. Là, c'est dévoilé, hein, leur désir, c'était que Jésus réponde non pour que les Romains s'en occupent. Ces gens flattent Jésus. Hein, et font vraiment penser au psaume 55 que nous avons entendu tout à l'heure, ou bien au proverbe 26, versets 24 à 26. Je vais vous le lire ici. Hein. Par ses lèvres, celui qui a de la haine se déguise. Il met au-dedans de lui de la tromperie. Lorsqu'il met de la grâce dans sa voix, ne le crois pas. Car il y a 7 abominations dans son cœur. Sa haine peut se cacher sous la dissimulation. Sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. Ça décrit très bien ce que nous voyons ici en connaissant toute l'histoire. Alors quand ses ennemis disent à Jésus qu'il est vrai, qu'il ne redoute personne, qu'il ne regarde pas à l'apparence, qu'il enseigne selon la vérité, il aurait pu être flatté et se laisser entraîner dans leur jeu. Jésus aurait pu être flatté et se laisser entraîner dans leur jeu. Mais il y a une grande différence entre les compliments et la flatterie. Vous connaissez les fables de La Fontaine? Mais oui, vous connaissez le renard et le corbeau. Maître corbeau sur un arbre perché, tenant en son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur le corbeau. Vous qui êtes si joli, vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sentant pas de joie, et pour montrer sa belle voix, ouvre large son bec, laissant tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit, « Mais bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y reprendrait plus. La flatterie des pharisiens et des hérodiens avait aussi un but. Atteindre un fromage à attraper, si vous voulez. Prendre Jésus au piège dans ses paroles afin qu'il se fasse éliminer. Mais notre Seigneur ne s'est pas laissé abuser. Il a vécu parfaitement, bien souvent, ce que nous n'arrivons pas à vivre. Il a vécu dans une parfaite humilité, sans se laisser piétiner à un autre moment qui était prévu pour accomplir notre salut. Alors c'est vrai que si la perfection n'est pas de ce monde, ne nous lassons pas de progresser. Parce que Jésus a payé pour tout ce qui est passé. Donc si vous pensez à maintenant, il a payé pour tout ce qui est passé. Et il nous donne un exemple pour le futur. C'est ainsi que la perfection de Christ nous attire et nous pousse en avant. Donc si la perfection n'est pas de ce monde, ne nous lassons pas de progresser. Parce qu'il a payé ce qui est passé et il nous donne un exemple pour le futur. C'est ainsi que la perfection de Christ nous attire et nous pousse à progresser. En nous reconnaissant que Christ a fait face à la manière dont le piège lui a été tendu, évitons de laisser la flatterie nous aveugler et nous faire tomber dans le terrible piège de l'orgueil qui nous fait commettre toutes sortes de péchés. J'aimerais encore réfléchir quelques minutes à comment réagir au piège lui-même. Face à la question lui-même. Au verset 14, nous voyons à la fin du verset, Est-il permis de payer le tribut à César? Devons-nous ne pas payer? Vous savez, le peuple est opprimé à cette époque-là. L'argent était utilisé par un gouvernement corrompu, qui faisait aussi des fêtes à Rome avec l'argent du peuple. Alors ouais, c'est vrai, il y avait le réseau routier romain qui avait été développé. Le courrier était beaucoup plus rapide qu'avant et plus sûr. Plusieurs avancées technologiques étaient venues de Rome, ainsi que la paix de l'Empire. Il ne faut pas non plus tout noircir, c'est vrai. Mais tout de même, l'argent récolté nourrissait des idolâtres, des personnes qui faisaient des orgies et qui n'avaient pas d'égard pour les pauvres. Vraiment, payer un gouvernement corrompu, ce n'est pas juste. Jésus, face à cette question, ne se précipite pas pour répondre. Mais il fait deux choses. La première, c'est qu'il met à la lumière que c'est un piège. Il dit, mais pourquoi me mettez-vous à l'épreuve? Parce qu'en fait, ils veulent pas une réponse à leur question. Ils veulent piéger Jésus. Donc la première chose, c'est qu'il met en lumière que c'est un piège. Et deuxièmement, il pose une question en lien avec la situation. On pourrait dire, un des meilleurs moyens pour désamorcer un piège, c'est le révéler. Un des meilleurs moyens pour désamorcer un piège, c'est le révéler. Et c'est ce que fait Jésus, parce que le mal n'aime pas la lumière. Le mal n'aime pas la lumière. Donc un des meilleurs moyens pour désamorcer un piège, c'est le révéler. Et c'est ce que Jésus fait, parce que le mal n'aime pas la lumière. Donc si vous êtes face à un piège, ou bien si vous-même êtes en train de cheminer pour vivre un piège ou faire un piège, ben, quand il est révélé, face à la lumière de Dieu, il permet d'une rencontre. Non, c'est un piège. Nous allons soit nous en repentir, soit nous en éloigner. Ou soit utiliser justement la deuxième élément, c'est de poser une question en lien avec cette situation. Donc Jésus fait ce qu'il vient de faire il y a quelques instants. Quand ils sont venus vers lui, ils lui ont dit, mais par quelle autorité fais-tu cela? Qu'est-ce qu'il a répondu? Par une question. Ok, bon, ben alors, qui avait le, Jean, il avait quelle autorité, de Dieu ou des hommes? Enfin, voyez, vous vous souvenez de cette notion. En fait, Jésus leur répond par une question qui les aide à prendre leur responsabilité ou à comprendre quelque chose. Jésus ne dit pas ici qu'est-ce qui appartient à César ou pas, même en leur disant, prenez une pièce de monnaie, qui c'est qui est dessus, etc. Non, mais il les aide à réfléchir. En fait, en posant sa question, Jésus fait retomber la tension et il invite ses interlocuteurs à réfléchir. De qui sont cette effigie, cette inscription sur le denier utilisé pour payer les impôts? Donc un des meilleurs moyens pour faire réfléchir un opposant est de lui poser une bonne question. C'est ce que Jésus fait ici. Jésus désamorce en disant clairement ce qui se passe. Et il fait de même pour chacun de nous. En fait, il le fait même, par exemple, lorsque nous doutons. Le doute peut être un piège. Et il nous dit, mais pourquoi ne me fais-tu pas confiance? Il nous place à notre responsabilité. Ou bien lorsque nous jouons à celui qui est parfait, il nous dit, mais le dernier péché dans ta vie, c'est qui l'a commis? Afin que nous le reconnaissions et que nous nous en détournions. Lorsque Jésus met une faute en lumière, ne cherchons pas à nous cacher, à nous échapper. Il est au courant. C'est comme l'enfant qui veut pas montrer ce qu'il a fait à ses parents, puis qui le cache derrière son dos, puis il y a le miroir derrière, quoi. Il le sait. Jésus le sait. Et s'il nous le révèle, c'est pour qu'on puisse s'en détourner. C'est pas pour nous écraser. Jamais. Maintenant que nous avons vu comment Jésus réagit face au piège, en apprenant au passage quelques éléments utiles pour nous, nous sommes reconnaissants de souligner que Jésus ne s'est jamais laissé et ne se laissera jamais prendre au piège. Tout ce qui lui arrive, arrive selon sa volonté. Et ça, c'est tellement rassurant. Parce que c'est lui qui nous guide. Et il nous guide jamais dans un piège. Sa volonté qui souligne l'importance de comprendre comment réagir face à l'autorité, eh bien, nous donne ici un exemple. Il donne un exemple de comment agir. Il s'agit ici, c'est vrai, dans ce texte ici, de l'autorité civile, du gouvernement. Or, si Jésus parle du gouvernement, c'est simplement parce que les pharisiens et les hérodiens ont parlé du gouvernement. Mais vous verrez que la clé que Jésus donne, c'est pour toute autorité. C'est notre deuxième point. Comment gérer notre soumission à l'autorité? Alors, relisons les versets 15 à 17. Jésus, qui connaissait leur hypocrisie, leur répondit, « Pourquoi me mettez-vous à l'épreuve ? Apportez-moi un denier afin que je le voie. » Ils en apportèrent un, et Jésus leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription ?»« De César, » répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils étaient dans l'étonnement à son sujet. Alors je ne vais pas vous laisser dans un suspense intenable pendant longtemps avant de vous donner la clé pour gérer la soumission à l'autorité. En fait, elle est claire, elle est limpide, et j'aimerais plutôt vous la donner tout de suite pour qu'ensuite nous y réfléchissions. La clé, elle est très claire. C'est « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu ». Ça, c'est la clé. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Jésus, en fait, n'évite pas la question de ses adversaires. Mais en fait, il remet les pendules à l'heure, comme on dirait dans un milieu horloger. Hein? Alors, j'ai une question à vous poser. Alors, si vous n'êtes plus là, il faut revenir maintenant, parce que j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qui appartient à Dieu ? Tout ! Exactement ! Absolument tout ! Qu'est-ce qui appartient à Dieu ? Tout, absolument tout. Car rien ne peut être obtenu en dehors de ce que Dieu donne. Il donne la vie, il donne les saisons, il fait pousser, il fait grandir, il donne des capacités à notre corps. Il permet que la nourriture soit transformée dans notre métabolisme. Il a mis un réseau de communication dans notre corps. Et pas un seul pas, pas une seule pensée, pas un seul battement de cœur ne serait possible sans Dieu. Donc, tout ce que nous faisons, c'est-à-dire en quelque sorte, lui appartient, est à Dieu. Dieu est au-dessus de tout et également de César. Dieu est au-dessus de tout et également de César. J'aimerais corriger ici une erreur qui arrive avec ce texte parfois. C'est que certains disent ici, on est en train de dire, ben voilà, Jésus est en train de mettre l'Église et l'État au même niveau. Non. Jésus parle de l'État, oui, et César, au gouvernement de l'État, et de Dieu, qui est au-dessus. Ça, c'est un élément important. Il ne place pas l'équilibre entre l'État et l'Église. D'un côté, Dieu, et de l'autre côté, César. Non. Jésus met Dieu au-dessus de tout. Et ensuite, il parle de César, parce que c'est l'autorité nommée par les pharisiens et les hérodiens, qui est sous l'autorité de Dieu. Comme l'Église est sous l'autorité de Dieu. Dieu a mis en place une hiérarchie d'autorité, c'est vrai. Et cette hiérarchie, il y a Dieu en dessus. Parce qu'actuellement, on est en train de nous dire que Dieu, c'est avec l'Église, et puis l'État, il n'y a pas Dieu. C'est faux. Dieu est au-dessus de tout. Et ensuite, il y a les différentes hiérarchies selon les responsabilités. Dieu a mis l'Église pour l'ordre spirituel, l'État pour l'ordre public, les patrons pour l'ordre dans le travail, les parents pour l'ordre dans la famille, et le mari pour l'ordre dans le couple. Et certaines autorités se croisent, et lorsqu'elles sont confrontées, ce sera l'autorité supérieure qui sera la référence. Hein, donc certaines autorités vont se croiser, c'est vrai, hein, dans certaines décisions, et lorsqu'elles sont confrontées, eh bien ce sera l'autorité supérieure de Dieu qui sera la référence. Une fois que l'on rend à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire tout, eh bien nous sommes prêts à donner aux différentes autorités ce qui leur revient, et nous le ferons tant que cela ne va pas clairement contre Dieu, parce qu'en fait, tout ce que nous avons lui appartient. Nous sommes des gérants, en fait. Nous sommes des gérants des biens que Dieu nous donne. Et nous agissons face aux autres structures d'autorité voulues par Dieu en tant que gérant de ce qui appartient à Dieu et non pas en tant que roi de moi-même. C'est ça la clé. Souvent, quand on ne veut pas obéir à l'État, c'est parce que moi, je ne suis pas d'accord, pas parce que Dieu n'est pas d'accord. Ou je ne veux pas obéir à mes parents parce que moi, je ne suis pas d'accord, pas parce que Dieu n'est pas d'accord, enfin, etc. Ou je ne veux pas faire ce que mon patron me demande parce que moi, je ne suis pas d'accord, pas parce que Dieu n'est pas d'accord. Non, nous sommes des gérants de ce que Dieu nous donne, puisque rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Alors pour comprendre cette autorité supérieure, j'ai essayé de trouver un exemple. C'est toujours un peu limité, mais Un exemple de camp, on arrive dans les camps d'été, donc ça nous aide à peut-être réfléchir. Les parents sont les responsables de leurs enfants, ce sont ceux qui ont l'autorité suprême. Et en fait, le chef de camp qui reçoit les enfants devient responsable de ses enfants pendant le camp. Et il délègue même des responsabilités aux moniteurs qui s'en occupent également. Et les enfants doivent obéir aux moniteurs et aux parents durant le camp. Mais l'autorité finale reste chez les parents, même pendant le camp. Si une décision doit être prise et que le chef de camp ou les moniteurs ne savent pas si les parents sont d'accord ou non, ils vont s'y référer avant d'agir. Vous voyez, la compréhension dans la clé que Jésus donne en disant « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » nous permet même de comprendre comment gérer la responsabilité et l'autorité dans un camp qui se réfère à une autorité supérieure. C'est la clé, je vous ai dit, pour toutes les autorités. Et ma prière est que chacun de nous, ce matin, nous comprenions que nous appartenons à Dieu et que nous sommes les gérants de ses biens. Si nous comprenons cela, on a fait un grand pas en avant. Tout appartient à Dieu, nous sommes les gérants, même notre corps lui appartient. Et dans cette attitude de gérant dans l'autorité suprême, nous allons nous soumettre avec gratitude aux autorités mises en place. Car nous ne le faisons pas premièrement pour plaire à ces autorités, mais pour plaire à celui à qui nous appartenons, celui qui nous donne la vie. Et ce ne sont pas nos envies, nos préférences qui doivent nous indiquer comment réagir face aux demandes des autorités, mais une obéissance qui n'a de limite que l'obéissance à une autorité supérieure, comme Christ l'a vécu. Bon d'accord, mais qu'est-ce que ça signifie de rendre à César ce qui est à César alors? Alors ça c'est une deuxième partie. Hein, Jésus demande d'apporter un denier, c'était la monnaie utilisée pour payer le tribut à César. César est sur la monnaie. Alors Jésus ne demande pas si César est sympa, s'il prend toujours de bonnes décisions, si tout ce qu'il fait est juste. Parce que ces questions concernent César lui-même, qui devra rendre des comptes devant Dieu. En fait, chacun est responsable de ses actes, et non pas des actes des autres. Chacun est responsable de ses actes, et non pas des actes des autres. Ce n'est pas la perfection ou l'imperfection de l'autorité qui enlève la responsabilité de s'y soumettre. Ce n'est pas la perfection ou l'imperfection de l'autorité qui enlève la responsabilité de s'y soumettre. Nous avons vu que la clé est que Dieu est l'autorité suprême et que tout lui appartient, que nous sommes les gérants qui vont utiliser les biens reçus dans le contexte de vie où nous nous trouvons. Et je crois que la parole de Jésus ici, que l'on trouve dans Marc 12, 17, est le fondement de toute relation aux autorités. C'est vrai qu'ici, on parle d'autorité civile avec les pharisiens et les hérodiens. Donc, c'est vrai que si on va dans la Bible, par rapport aux autorités civiles, il y a encore d'autres textes. Nous avons entendu Romains 13 avant la prédication dans les lectures bibliques. Il y a aussi 1 Pierre 2 que je vais vous lire, qui ne font en fait que développer des aspects, en fait, de la soumission à l'autorité civile en se fondant sur la base que Jésus a donnée ici, dans ce texte. Alors je vous relis 1 Pierre 2, 11 à 16. Vous pouvez regarder avec moi si vous voulez garder un petit doigt dans Marc 12. Et puis vous allez dans 1 Pierre, c'est presque à la fin de la Bible, 1 Pierre. Hein, donc il y a l'Apocalypse, après 3, 2, 1 Jean, Jude, 2 Pierre, 1 Pierre. Donc 1 Pierre 2, 11. Bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Au milieu des païens, ayez une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient, comme faisant le mal, ils voient vos œuvres bonnes et glorifient Dieu au jour de sa visite. À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour punir ceux qui font le mal et louer ceux qui font le bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des insensés, comme des hommes libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais comme des serviteurs de Dieu. Imaginez un homme qui vient d'un pays très important, un pays que personne ne peut attaquer, un pays indestructible. Et il existe, hein. Cet homme s'appelle Membre du Ciel, et il est envoyé par son roi pour venir vivre en Suisse. Alors, membre du ciel va s'installer et suivre les lois du lieu pour construire sa maison.
Ben ouais, quand on construit une maison, on ne peut pas construire n'importe comment, n'importe quand, etc. En Suisse, il y a des lois.
Il va utiliser les réseaux de transport tels qu'ils sont définis en Suisse. Il va acheter et vendre tels que définis en Suisse, etc. Tout en restant complètement fidèle au roi qui l'a envoyé. Et en même temps, pour que son roi soit fier de lui, membre du ciel cherchera à être un modèle et fera même ce qu'il ne ferait pas naturellement, comme suivre les limitations de vitesse ou de payer des impôts alors qu'il n'est pas d'accord avec l'utilisation de cet argent par ceux qui en ont la responsabilité, mais à qui il cherchera peut-être quand même à dire quelque chose lorsque cela va contre la loi de son roi. Monsieur Monde du Ciel ne fera pas quelque chose contre son roi. Lorsque c'est sa responsabilité personnelle d'agir, jamais il n'ira contre le roi qui l'a envoyé. Il fait partie de ce royaume indestructible. Hein? Mais pour tout ce qui n'est pas de sa responsabilité personnelle, il va se soumettre aux autorités en place. Car c'est ainsi qu'il exerce sa soumission à son roi. Et qu'il démontre que ce n'est pas juste de la théorie qu'il se soumet à son roi. Vous savez, Jésus n'a pas parlé de désobéissance. Il a parlé d'obéissance. Rendez à. Il n'a pas dit ne donnez pas. Jésus a parlé d'obéissance. Et il a parlé d'obéissance à l'autorité supérieure. Rendez à César et ensuite a dit rendez à Dieu. Et c'est ce que nous devons retenir dans tout ce que nous vivons face aux autorités. À toute autorité. Obéissons. Et lorsque cela va contre une autorité supérieure, et là qui peut être Dieu, alors obéissons à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ne soyons jamais motivés par la désobéissance. C'est pas une bonne motivation. Ne soyons jamais motivés par la désobéissance comme l'étaient les pharisiens envers le gouvernement romain. Les pharisiens étaient motivés par la désobéissance. Ne soyons jamais motivés par la désobéissance comme l'étaient les pharisiens envers le gouvernement romain. Ils n'étaient d'ailleurs clairement pas non plus motivés par l'obéissance à Dieu qui envoyait ses messagers et même son fils. Les pharisiens n'étaient même pas motivés par l'obéissance à Dieu qui envoyait ses messagers et son fils. Ils étaient motivés en fait à l'obéissance de leurs propres règles. Jésus a toujours obéi à l'autorité supérieure. Il était soumis à l'autorité mise en place de son temps. Il a même payé ses impôts et il a suivi les lois mises en place par le gouvernement. Je ne parle pas des lois légalistes des pharisiens que les pharisiens voulaient imposer au peuple. Alors en conclusion, souvenons-nous la clé si importante pour gérer toute relation avec toutes les autorités que nous allons rencontrer dans notre vie. Quelle est la clé? Rendez à Dieu, ce qui appartient à Dieu. Si vous avez retenu ça aujourd'hui, vous avez tout retenu. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire reconnaissons que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, mais que Dieu est notre roi. Et vivons la soumission à toutes les autorités, église, état, travail, famille, couple, de manière à démontrer que nous obéissons à Dieu. Ainsi, nous donnerons un bon témoignage, nous reflèterons Jésus-Christ, qui a parfaitement fait la volonté de Dieu sous des gouvernements iniques. Jésus ne s'est pas laissé piéger. Il a pu accomplir notre salut. Nous allons remercier Dieu qu'il ne s'est jamais laissé piéger. Et nous allons nous laisser influencer par lui. N'hésitons jamais à nous approcher de Jésus qui dit « Je ne jetterai jamais dehors celui qui vient à moi. » Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour ta parole qui nous rapporte des faits historiques qui se sont passés dans le temple à Jérusalem lors de la dernière semaine où Jésus était encore en vie avant sa mort sur la croix. Merci parce que nous pouvons même avoir des informations de ce mardi qui s'est passé, était-ce le matin, le temps de l'apéro, l'après-midi, nous le savons, mais nous savons que des personnes sont venues vers lui pour le piéger, parce qu'il voulait l'éliminer. Il voulait que soit les Romains ou peut-être la foule se révolte contre lui. Et en fait, ni les Romains, ni la foule ne se sont mis contre Jésus. Seigneur, sa sagesse nous dépasse. C'est vrai, complètement. Et sa sagesse nous rassure aussi, totalement. Parce qu'il nous permet de comprendre que il a les réponses. Il sait reconnaître le chemin qui nous permet de sortir des pièges. Et j'aimerais te remercier pour cette clé magnifique que Jésus-Christ nous a donnée, de regarder à toi. Et en fait, de te donner ou de te redonner ou de vivre de manière à comprendre que tout appartient. Et que notre attitude face à toute autre autorité qui pourrait être au-dessus de nous sur cette terre soit vécue avec cette clé. Que nous le faisons en étant de bons gérants de ce qui t'appartient. Seigneur, j'aimerais te prier pour les autorités gouvernementales. Nous sommes conscients, Père, de différentes choses qui se passent dans ce monde, particulièrement dans notre pays, où ils devront rendre des comptes devant toi, des déviations, des choses iniques qui sont mises en place, des lois qui permettent d'aller contre ta loi. Donne-nous, Seigneur, d'être le sel de cette terre, la lumière du monde, et de permettre aussi à nos gouvernements de comprendre que sur certains sujets, ils font fausse route, de manière à ce qu'ils puissent se repentir et revenir à ce qui est juste selon toi. Donne-nous, Seigneur, de vivre dans ce pays en étant humble, soumis, en tout ce que nous pouvons être soumis, de manière à manifester notre obéissance envers toi, envers notre gouvernement. J'aimerais te remercier, Seigneur, pour ceux qui sont sel et lumière dans ces gouvernements. J'aimerais te remercier particulièrement pour cette décision de la semaine passée aux États-Unis qui manifeste que des frères et sœurs dans la foi ont été sel et lumière et ont permis d'enlever ce joug de l'obligation de permettre des avortements. Seigneur, c'est une grâce que tu as permise, c'est un encouragement que tu nous donnes d'être sel et lumière dans ce monde. Sois-en loué et béni dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.